Vous écoutez les grands entretiens de la FAD, un balado du pôle d'expertise interordre en formation à distance. Les grands entretiens de la FAD rassemblent des personnes praticiennes et chercheuses qui s'intéressent à la formation à distance en enseignement supérieur. Dans cet épisode, nous nous intéressons au processus de développement de ressources éducatives numériques pour la formation à distance. Je m'appelle Charlotte Lemieux et je suis chargée de projet du volet veille et mobilisation des connaissances au pôle d'expertise interordre en formation à distance. La transformation numérique de l'éducation et la multiplication de l'offre de formation à distance amènent de plus en plus le corps enseignant à se tourner vers des ressources éducatives numériques et libres. Il s'agit de contenus pédagogiques numériques mis à disposition librement avec des licences ouvertes permettant de les utiliser, de les modifier, de les adapter et de les redistribuer pour soutenir des pratiques d'enseignement et d'apprentissage plus souples et inclusives. Il est en effet essentiel que ces ressources soient conçues pour être adaptables dans un contexte où les besoins des enseignantes et enseignants ainsi que de la communauté étudiante sont très divers. Les REN peuvent représenter des leviers puissants pour l'accessibilité, l'équité et l'inclusion en formation à distance. Elles participent à décentraliser la production des savoirs, à enrichir les perspectives pédagogiques et à soutenir les apprentissages, quels que soient les contextes sociaux ou géographiques des personnes. Le développement de REN en FAD n'est pas sans défi. Il s'agit de produire des contenus de qualité, mais aussi de penser à leur maintien dans le temps, à leur mise à jour et à leur intégration dans des environnements pédagogiques variés. Cela implique une coordination efficace entre toutes les parties impliquées. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Marie Chassé, conseillère pédagogique et technopédagogue à la formation continue du Cégep de Saint-Hyacinthe. Marie supervise des équipes dans des projets de développement pédagogique asynchrone et agit comme conseillère ou conceptrice pédagogique principale. Elle a entre autres travaillé sur la REN « Réfléchissons à voix haute », inspirée des livres dont vous êtes le héros, et conçue pour soutenir le développement de la pensée réflexive des personnes étudiantes à distance. Bonjour Marie.
Bonjour Charlotte.
Annick de Saint-Hilaire, qui est chef des affaires académiques chez e-Concordia, le portail de la formation en ligne de l'Université Concordia. Donc, Annick est en charge de l'équipe qui développe les cours en ligne, composée entre autres de concepteurs pédagogiques et de spécialistes multimédia. Elle porte deux projets de REN, un projet interordre de capsules témoignages sur le bien-être numérique en formation à distance et un projet de formation sur l'utilisation de l'IAG dans la conception de cours en ligne. Bonjour Annick.
Bonjour Charlotte.
Paolo Mendoza, qui est technopédagogue à la formation continue et au service aux entreprises du Cégep André Laurendeau. Paolo accompagne les personnes enseignantes et conseillères pédagogiques pour tout ce qui concerne la technopédagogie. Il fait partie du comité institutionnel sur l'IA et du comité sur les compétences numériques du Cégep. Il a participé à la création d'un guide d'accompagnement complet pour la formation des adultes à distance. Bonjour Paolo.
Bonjour Charlotte.
Et finalement, Claude Potvin, conseiller en pédagogie universitaire à l'Université Laval. Claude participe aux activités du pôle d'expertise, notamment au sein de l'équipe des REN, ainsi qu'à celle de la Fabrique REL. Il est chargé d'encadrement à l'Université TELUC et coordonnateur à l'édition de la revue Médiation et médiatisation. Ses activités professionnelles sont au croisement de la pédagogie universitaire, des ressources éducatives libres et de la diffusion des savoirs en contexte numérique. Bonjour Claude.
Bonjour Charlotte.
Alors, merci à tout le monde d'être là. Donc, je vais commencer, on va se lancer dans une première question un petit peu générale. Donc, quand on parle de ressources éducatives numériques en formation à distance, de quoi est-ce qu'on parle concrètement? En quoi une REN, ça se distingue de d'autres types de matériel de cours en ligne? Claude?
En fait, une REN, c'est une ressource comme une autre. Hein? Les ressources numériques, des ressources tout court, maintenant elles sont toutes numériques. On en développe depuis toujours. Mais la plupart du temps, on le fait dans notre environnement, à partir de nos propres besoins. Alors qu'une ressource éducative numérique dans le contexte du pôle, ben évidemment, il y a une perspective de partage. Donc, ça veut dire qu'on a une autre préoccupation dès le départ lorsqu'on conçoit notre ressource éducative numérique. En général, on va utiliser, par exemple, une licence Creative Commons. Pas toujours. Il y a d'autres types de licences. Mais le fait d'utiliser ces licences-là, évidemment, ça nous simplifie un petit peu la vie. Il y a souvent dans licence, quand on parle de licence éducative numérique, on parle aussi de ressources éducatives libres parce qu'il y a une bonne majorité des licences Creative Commons où il y a une composante, il y a des licences qui permettent la modification. C'est ce qu'on entend essentiellement par ressources éducatives libres. Mais ça peut être aussi non libre, c'est-à-dire qu'on permet l'accès, mais sans la modification. Alors, mais cette préoccupation-là de départ, ressources éducatives numériques, là, de penser aux autres lorsqu'on développe une ressource est fondamentale. Évidemment, cette perspective-là nous amène à changer un peu la façon dont on va travailler pour développer notre ressource, entre autres parce qu'on a un autre focus. Oui, on parle de notre besoin, mais on pense aussi aux autres. Donc, notre terminologie, évidemment, il faut qu'on la choisisse, qu'on soit compréhensible par tout le monde. Et on fait aussi moins de références à des outils spécifiques ou des procédures qui sont très, très spécifiques à notre environnement. Sinon, évidemment, on ne sera pas compris. Évidemment, ça dépend aussi de du public cible qu'on détermine à l'avance, là, en dehors de nous-mêmes. Parce que, par exemple, au pôle, on peut penser uniquement faire une ressource en fonction, par exemple, du cégep ou de l'université ou des deux. Alors, ça aussi, ça amène peut-être une petite préoccupation différente lorsqu'on construit une ressource. Mais à la base, c'est quand même une ressource comme toutes les autres qu'on fait, mais ça change un petit peu, évidemment, la perspective.
Est-ce que vous la faites, cette distinction-là, dans vos pratiques respectives, là, entre les ressources que vous utilisez pour vos besoins spécifiques puis les ressources que vous avez tous travaillé sur des ressources éducatives numériques? Est-ce que vous avez cette distinction, cette perspective-là dans vos pratiques?
Ben en fait, nous, à la formation continue, en fait, notre point de vue recoupe un peu celui de Claude. Pour nous, une REN, ça vise un idéal d'universalité, c'est-à-dire un idéal de pouvoir répondre à un besoin exprimé qui est présent, mais pour une communauté. Puis pour nous, communauté, ben c'est ça, Claude l'a déjà mentionné, là, mais ça peut être les enseignants d'un programme, les enseignants de l'AFC, les enseignants du Cégep, les enseignants du Québec dans le cadre du pôle. Donc, nous, c'est pas mal la distinction qu'on fait entre les deux. Je vous dirais que dans le cadre du pôle, ce qu'on trouve vraiment bien, c'est que ça nous permet de prendre du recul pour vraiment développer une ressource qui s'adresse à un plus grand nombre et faire vraiment de l'innovation pédagogique.
Mmh. Vous avez un public cible en tête là, quand vous créez une ressource. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde, Annick, Paolo?
Moi, ce que je trouve, c'est ça le donc intéressant, c'est justement de penser qu'on sera pas dans un petit groupe seulement, mettons, dans notre unité à utiliser cette ressource-là, mais donc à partir du moment où tu penses donc que pourrait être utilisée par différentes ressources dans les autres établissements. Donc, dans l'analyse, donc tu tiens compte de d'autres éléments sur l'adaptation, donc comment ça va évoluer aussi dans le temps, comment les gens vont pouvoir l'implémenter. Alors, puis je trouve ça excitant de pouvoir imaginer que tu développes quelque chose qui va pouvoir servir à d'autres gens dans d'autres établissements. Là, tu sais, donc, j'aime beaucoup cette idée-là de développer des REN.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. En fait, je vois que cet esprit de partage est bien présent dans nos réseaux collégiales. En fait, je vois que nos collègues veulent toujours partager les ressources qui sont en train de développer dans leur milieu. Récemment, d'ailleurs, j'ai partagé en document une REN que j'ai conçue, c'est plutôt une grille d'évaluation dynamique. Je l'ai partagé dans notre communauté de pratiques reptiques et une chose que j'ai voulu faire, c'est de rendre ça modifiable le plus possible. Donc, j'ai pas ajouté le logo du cégep, par exemple. Donc, j'ai permis aux gens d'ajouter leur propre logo. Donc, il y avait un bouton pour ajouter ici le logo de votre institution. Donc, c'est dans cet esprit de partage que je crois qu'on peut. Donc, développer une REN, une ressource éducative numérique.
Mm-hmm. Pour la REN, j'ai mentionné un petit peu plus tôt, là, Paolo, que tu avais participé au développement d'une REN sur un guide pour la formation des adultes en formation à distance. C'était quoi le point de départ de ce projet-là? Est-ce que c'était un besoin pédagogique, un problème à résoudre? C'était quoi le point de départ?
À la fois un problème à résoudre et bien sûr un besoin pédagogique. Mmh. En fait, comme tu l'avais mentionné, le titre en fait formation à distance pour adultes, on s'est rendu compte que finalement il n'y avait pas beaucoup de matériel concernant ce sujet. Donc on s'est dit on a ici un manque, un besoin qu'on pourrait répondre. Donc on a décidé de contribuer, en fait, on souhaitait pas, on voulait pas, on n'avait pas la prétention de régler ces problèmes d'ordre complexe, en fait, mais on voulait quand même apporter notre contribution et puis on vient de finaliser, en fait, l'arène qui a été envoyée la semaine dernière, en fait. Il sera bientôt diffusé, je profite pour faire la promotion. Et puis, donc, c'est ça, c'était notre objectif, d'apporter une contribution parce que, voilà, on n'a pas beaucoup de contenu, de documents, de matériel portant sur la formation à distance pour adultes. Donc,
Est-ce que c'était une recherche qui vous a permis de constater ce manque-là ou c'est...
Oui, effectivement, on voulait... offrir à nos formateurs, à nos chargés de cours de la formation continue, une boîte à outils et on faisait des recherches pour faire une sorte de REN à l'interne pour nos formateurs, pour nos chargés de cours, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de matériel portant sur la formation à distance pour adultes et c'est là qu'on a vu passer le courriel, l'invitation, l'appel, en fait, à projet. Et voilà, pourquoi pas, on pourrait nous-mêmes créer une REN pour répondre à ces besoins.
Mm-hmm. Oui, puis pour ce qui est des approches ou des modèles sur lesquels vous vous êtes basé là, pour concevoir vos REN, Annick, est-ce que tu veux m'en parler un petit peu pour la REN peut-être les capsules sur le bien-être numérique ou on a parlé d'une autre... une formation sur l'utilisation de l'IAG.
Oui, tout à fait. Tu vois, ce qui est intéressant, nous, donc, on développe deux REN et les approches ont été donc différentes pour les deux. Alors, la première REN qu'on est en train de développer, c'est une formation sur l'utilisation de l'IAG dans la conception de formation à distance. On avait eu une approche proche, tu sais, donc un peu à dit, donc analyse, design, développement, implémentation, évaluation. Puis, en fait, c'est ça, donc on a vu comme un besoin à l'interne de pouvoir aider nos concepteurs pédagogiques et nos professeurs à pouvoir utiliser donc c'est l'intelligence artificielle générative. Puis là, donc on a fait une analyse, tu sais, un petit peu systématique de dire qu'est-ce qu'on aurait besoin pour créer cette formation là. Puis là, donc on a fait un premier design. Puis c'est après coup qu'on a fait ok, ben là, tu sais, il nous faudrait peut-être un peu de ça va être un investissement dans l'organisation. Puis on s'est dit est-ce que si on la partage à plus largement, parce qu'on disait, on ne doit pas être les seuls là, présentement dans d'autres établissements, ils doivent avoir aussi ces mêmes défis-là. Puis là, donc, on a appliqué pour le pôle pour pouvoir ensuite faire, aussi avoir du support pour pouvoir faire le développement, puis tout ça. Puis là, j'ai hâte à l'implémentation, puis ensuite, tu sais, de l'évaluer. C'était un peu l'approche qu'on a prise pour celle-là. C'est drôle parce que ce deuxième REN qu'on est en train de développer, Elle a eu comme un parcours un peu différent. C'est en participant à la semaine de la formation à distance, puis j'étais dans un atelier où on parlait justement du bien-être numérique. On avait des échanges un peu de façon spontanée, tout ça. Puis à un moment donné, on disait, mais si on avait à développer une reine, de quoi ça pourrait avoir l'air? Puis là, on a commencé à faire des sessions de brainstorm, tout ça. Puis on est arrivé rapidement à dire le format, puis ensuite on s'est dit, OK, ben là on va faire à rebours un peu, bon, ça serait quoi nos objectifs pédagogiques, qu'est-ce qu'on veut atteindre avec cette reine-là. Puis on est allé avec un modèle où on a fait un premier prototype pour le soumettre aux gens, dire qu'est-ce que vous pensez de ce modèle-là, de ce format-là, puis là maintenant on va développer la suite. Alors il y a quelque chose qui a été plus spontané, plus, tu sais, donc créatif, un petit peu moins, tu sais, systématique. Mais au final, je trouve que, tu sais, ça le résultat va être très bon dans les deux cas, tu sais. Donc, alors, il faut pas non plus, tu sais, se dire, OK, mais il faut absolument, tu sais, quand on veut développer une reine, de le faire de façon très, tu sais, il y a un processus très défini qu'il faut suivre. Ça peut se faire de façon un petit peu plus, donc, comme je dis, spontanée. Il y a un petit besoin. Donc, on imagine quelque chose, on le crée, puis alors, ouais, mm-hmm. Ça s'est fait un peu comme ça.
Ouais, ouais. Fait que pour cette deuxième reine-là, vous êtes partie plus d'un format. Vous avez commencé par imaginer un format qui vous venait d'une expérience, de votre expérience.
Oui, exactement.
OK. Là, Annick, tu viens de nous parler de deux processus très différents. Entre autres, le modèle a dit qu'on voit quand même souvent là, pour le développement de reines. Claude, est-ce que tu dirais qu'il y a des grandes étapes de développement d'une reine en fade qui sont à respecter absolument, ou est-ce que il y a des étapes parfois qui sont sous-estimées? Est-ce qu'il peut y avoir différents types d'organisation, disons?
Je crois qu'il y a différents points de vue à ce sujet-là, mais Annick a vraiment bien résumé la situation, parce qu'effectivement, on a les deux, on a des gens qui sont très systématiques. Puis je dirais que c'est beaucoup un petit peu en fonction du contexte, puis aussi de la, comment dire, des antécédents, puis de la formation, des préférences aussi des membres de l'équipe et de la personne qui est porteuse de projet souvent. Donc, il y a des gens qui veulent être beaucoup plus systématiques. Alors, à ce moment-là, on va y aller peut-être dans une méthode un peu plus hadie. Malgré qu'a dit, on peut commencer aussi à une phase ultérieure, revenir en arrière, faire l'itération, améliorer les phases précédentes. Mais il y en a beaucoup, effectivement, qui vont plus de façon spontanée. Et puis, ça dépend aussi, avec une méthode un petit peu plus de type design créatif, là, le creative design, avec des prototypes comme le mentionnait Annick. C'est très intéressant, ça, quand on peut mobiliser les gens et puis concentrer un peu les énergies pendant une journée ou même deux. À ce moment-là, ça booste la créativité, puis ça permet d'avancer vraiment rapidement. Mais c'est pas toujours possible de faire ça, surtout à distance, dans un contexte de développement avec de multiples personnes qui sont pas nécessairement disponibles en même temps. Alors, ça dépend des contextes. Puis, pour revenir à la question, est-ce qu'il y a des étapes cruciales? Absolument. Ça change lorsqu'on développe dans cette perspective-là là, d'ouverture, de partage, comme on disait, de communauté, comme le mentionnait Marie tout à l'heure. Faut pas oublier que on développe une ressource qui est partagée, donc ça serait fou de pas regarder ce qui existe déjà là. Je veux dire, ça serait contre la philosophie du libre et du partage que de ne pas regarder ce qui existe déjà pour le réutiliser soi-même. On veut éviter de recréer ce qui existe. Donc l'étape d'analyse dans ce sens-là est très importante, ou la partie recherche là est vraiment importante par rapport à souvent ce qu'on fait d'habitude. On a l'impression qu'on a la vérité et qu'on crée de zéro. Alors là, non, on repart de ce qui existe. Et une autre étape qui est vraiment très importante, c'est dans la perspective de partage à beaucoup, beaucoup de monde, en fait, à l'univers entier, c'est la validation. Parce que là, c'est notre nom qui apparaît sur la ressource. Et puis, évidemment, on veut que ça soit d'une certaine qualité. Donc, on va se soucier davantage de que notre ressource, au-delà des simples erreurs d'orthographe ou tout ça, on veut que ça fonctionne, on veut que ce soit efficace. Donc, on va aller valider auprès de nos publics cibles, soit les personnes enseignantes, les personnes professionnelles ou les personnes étudiantes, dans certains cas. Donc, c'est important important de faire cette étape-là, puis c'est souvent une étape qui est difficile à faire parce que ça arrive à la fin, on manque de temps, on sait ce que c'est, là, c'est l'évaluation, c'est souvent négligé. Puis il y a une dernière étape qui n'existe, enfin, qui existe aussi dans un contexte local, mais beaucoup moins, avec beaucoup moins de d'ampleur, c'est la diffusion, à savoir qu'il faut trouver un endroit pour la loger. Il faut aussi faire des efforts pour la faire connaître, parce que ben, faire des efforts, on peut ne pas en faire, mais si on fait pas cette étape, on prend pas le temps de partager notre ressource, évidemment, personne ne va la voir, c'est la même chose que si on le faisait en local. Alors, il faut prendre le temps d'aller utiliser bon les réseaux sociaux, utiliser différentes plateformes qui existent, des répertoires, etc., pour la faire connaître, profiter de tous les événements, dans le fond, pour la faire connaître, parce que on veut pas travailler pour rien quand on fait ça, dans une perspective plus globale. Alors, cette étape-là est aussi très, très importante. Puis, il y en a peut-être une toute dernière à la fin, mais qu'on oublie souvent, c'est que c'est la mise à jour. Parce que on veut que, évidemment, ça continue d'évoluer. On pourrait y revenir, mais cette perspective de mise à jour-là, c'est pour le futur, mais avec une perspective d'ouverture. Donc, on prend les commentaires des gens qui l'ont utilisé, etc., à faire une version 2, 3, etc., mais là, on est pas mal plus loin dans le temps.
Oui. Moi, j'ai l'impression que ça revient un petit peu à la distinction que tu faisais au début. C'est comme si... ce qu'on voit comme le cœur de la démarche, ça reviendrait finalement à créer une ressource pour un petit groupe fermé, pour un besoin spécifique, alors que quand on est dans une reine, ben là, ça implique quand même plus de gens, plus de temps, plus de, ouais, d'attention à ces étapes-là qui sont primordiales. Dans vos pratiques, dans vos projets respectifs, est-ce que vous avez suivi chacune de ces étapes-là? Est-ce que vous avez trouvé que c'était plus long ou plus ardu, par exemple, de faire l'analyse préliminaire ou de maintenir vos ressources à jour?
Comme je disais tout à l'heure, puisqu'on n'avait pas beaucoup de repères de référence concernant le sujet, l'étape d'analyse, de recherche a été vraiment difficile et fondamentale, justement. Mais je crois que Claude a très très bien résumé toutes les étapes. Je pourrais peut-être aborder les étapes sous-estimées d'un projet lors du développement d'une reine, parce que je crois que nous, dans notre projet, nous avons sous-estimé en fait quelques étapes qui sont quand même très très importantes, mais voilà, comme par exemple les références bibliographiques, c'est très simple, c'est banal, mais si par exemple vous mentionnez en auteur ou en autrice dans votre reine et que vous ne mettez pas dans la bibliographie, après vous devez réviser tout, c'est vraiment un super plate, on va dire, mais c'est nécessaire. Donc c'est une révision sous-estimée en fait, cette révision finale. À laquelle on ne fait pas très attention. Et une autre chose aussi, une autre étape qu'on sous-estime très souvent, c'est le visuel d'une guide. Dans guide, par exemple, dans un guide qui est conçu dans une plateforme comme Genially, c'est le cas de notre reine. Nous avons conçu un prototype très avancé au départ, ce que je ne conseille pas, parce que si vous concevez dès le départ, un prototype très avancé, trop avancé en fait. À la suite des échanges, vous décidez de changer ça, de modifier. Ça peut être un peu laborieux, difficile. Donc oui, le visuel est super important, le prototype est important, mais il faut être conscient que ça peut changer en cours de route. Donc je ne conseillerais pas de développer un prototype trop complexe au départ.
Donc il faut laisser de la place aux modifications.
Exact.
Oui, oui. Puis Marie, Annick, est-ce que pour votre part, ça avait l'air de quoi, là, ces étapes-là?
Bien, en fait, de notre côté, pour ajouter à ce qui précède, une des étapes qui est souvent sous-estimée, je ne sais pas de votre côté, mais nous, c'est la finition. Parce que un projet, ça n'en finit plus de finir, dans le sens où on va toujours trouver des petits détails à gauche et à droite qui vont comme clignoter, là. Puis pour nous dire, ben, il y aurait ça à améliorer, il y aurait encore ça à améliorer. Fait que, tout ça pour dire qu'il faut savoir s'arrêter. Puis nous, dans le développement de la reine, on a utilisé l'approche SAM, ce qui veut dire qu'on fait plusieurs petits micro-pilotes. Et donc, ce que ça veut dire qu'on reçoit beaucoup de suggestions, fait que ça nous a demandé de vraiment prioriser, puis de dire, ben, on peut pas répondre à tout, tous les besoins.
Ah, c'est intéressant. Annick, est-ce qu'il y a des étapes pour vous qui ont été...
Mais je ferai vraiment du pouce sur ce que Marie vient de dire. Donc, dans une des reines, donc celle sur développement de formation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour développer de la formation à distance, dans cette reine-là, on avait... Donc, décider de pouvoir, tu sais, donc, faire des périodes de validation des contenus, puis tout ça. Puis comme Marie disait, tout le monde a des suggestions, puis donc, d'ajout, tout ça. Puis à un moment donné, à la lumière des commentaires qu'on avait, on aurait eu une formation qui aurait duré, tu sais, pas loin de 12 heures. Puis là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, si on ajoute un des chapitres là-dessus, sur ça. Puis à un moment donné, c'était de dire qu'il faut essayer de cadrer le contenu, plus possible, synthétiser, ça va être des fondamentaux, ça sera pas non plus, tu sais, parce que tu peux t'embarquer, tu sais, donc dans l'ajout, tu sais, perpétuel de contenu. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, ben là, on va délimiter notre terrain de jeu, là, un petit peu, puis s'assurer que quand tu fais valider auprès de différents intervenants, ben que tu puisses dire, ben écoutez, oui, on va faire des choix, puis c'est ça, parce que sinon, ben tu peux avoir à l'infini, tu sais, donc des modifications, des ajouts, puis tout ça. Alors ça, je pense que c'est un des défis qu'on a eu pour le développement de cette reine-là. Puis dans l'autre, celle sur le développement des capsules sur le bien-être numérique. Donc, celle-là, c'était donc un partenariat avec une belle production avec des intervenants de différents établissements. Puis, là, on avait différents rôles. Puis, c'était de s'organiser ensemble avec les horaires de chacun, puis de s'assurer qu'on ait quelqu'un qui puisse, tu sais, donc essayer de suivre le tempo, là, tu sais, puis de garder le rythme pour qu'on puisse arriver à livrer avec les horaires de tout le monde, là, tu sais. Donc, pour nous, ça, c'était un défi, je trouve, pour le développement de la ressource sur les capsules du bien-être numérique, là, d'essayer avec les occupations de tous et chacun de rentrer et ça, de se trouver des moments où on pouvait donc partager, que les rôles et responsabilités soient clairs pour faire avancer le projet, tout ça.
Justement, Marie, quel rôle tu dirais que la collaboration joue dans la réussite du développement d'un projet de Rennes?
Ben en fait, c'est sûr que c'est primordial. Ben je dirais que la collaboration, elle est multidimensionnelle. Il y a d'abord la collaboration dans l'équipe de conception en tant que telle. Mais il y a aussi un type de collaboration dont on parle peu, là, mais c'est la collaboration avec l'ouvrage, avec le dispositif en devenir. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, nous, on travaille avec l'approche SAM, ce qui veut dire qu'on fait un petit prototype au début, qu'on fait évoluer par tour de roue. Au début d'un projet, ça veut dire qu'on a une vue assez incomplète, hein, de notre dispositif. On ne sait pas dans tous les menus détails ce à quoi il va ressembler. Mais il arrive à un moment donné, parce que dans le fond, on le découvre au fil de la conception. Puis il arrive à un moment donné où c'est même le dispositif qui oriente son développement, dans le sens qu'on le voit, on voit telle chose, OK, pour que ce soit encore plus cohérent, pour vraiment le rendre plus solide. Puis ça, je trouve que c'est une collaboration qui est quand même importante parce que ces moments-là, c'est des choses souvent qu'on n'avait pas prévues au début. Je pense qu'il faut se laisser une espèce de liberté, de flexibilité. On ne peut pas tout prévoir au début d'un projet, d'une conception, d'une reine. Je pense qu'il faut se laisser cette ouverture-là. Le projet va nous apprendre des choses et tout ça. Fait que nous, on y va vraiment comme ça. Puis ce qui nous guide, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, vous êtes en train de concevoir, puis à un moment donné, vous vous dites, ah, c'est en plein ça. Mais quand c'est en plein ça, c'est parce que c'est ça. Donc, voilà.
C'est intéressant, le rapport avec la ressource elle-même, entre les personnes, mais aussi avec la...
Oui.
Est-ce que, Paola, est-ce que vous étiez comme dans une collaboration avec des personnes à l'externe aussi, ou c'était toi puis une autre collègue?
Oui, Charlotte, c'était moi, Vanita, qui est ma collègue technopédagogue de la formation régulière du Cégep André-Laurando. Et aussi, on a été chanceux, en fait, parce que nous avons eu aussi accès à un groupe de consultation constitué des conseillères pédagogiques. J'ai dit au féminin parce qu'il n'y avait que des conseillères pédagogiques, conseillères pédagogiques REPTIC et REPCAR. Donc, ce groupe, je dirais, qui a été fondamental pour le développement de notre ressource, de notre REN. On a eu deux rencontres qui ont été organisées par Annie-Claude Prudhomme et Marco Guibault. Donc, je les remercie. J'en profite pour les remercier. Et effectivement, cette collaboration, comme je disais, a été fondamentale parce qu'elle nous a permis de corriger certaines erreurs, de voir les choses autrement. Donc, je considère que la collaboration, surtout parce que c'est une collaboration de personnes externes. Donc, c'est difficile quand t'es plongé dans un projet pendant plusieurs mois. On voit plus les erreurs, on voit plus rien, en fait. Et cette collaboration de personnes externes est fondamentale pour nous. Ça a été vraiment très aidant, très important.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui êtes à l'étape de l'implantation ou bien qui avez vécu, en fait, cette étape-là, là, ça peut être pour une autre REN?
C'est pas... on arrive à l'étape d'implémentation, donc puis on a justement à penser justement comment ça va être utilisé, comment les gens vont pouvoir aussi l'adapter. Comme Paolo me mentionnait tantôt, on veut que les gens puissent s'en servir. Alors, un guide, tu sais, donc, d'adaptation. Donc, il y a ces éléments-là en support à la REN elle-même là, qu'on a décidé de pouvoir développer. Alors, on arrive à cette étape-là, puis j'ai hâte de la voir en place, puis donc de pouvoir ensuite voir les réactions des gens qui l'ont utilisé. Donc, on suggère aussi des façons de l'utiliser. Alors, j'ai très hâte de voir comment ça va se déployer. Là.
Mais Claude, peut-être, tantôt, tu nous en parlais comme l'importance de cette étape-là, de diffuser une REN une fois qu'elle est produite. Dans ton expérience auprès d'équipes, par exemple, qui auraient produit des REN, c'est quoi les défis qu'on peut rencontrer dans à cette étape-là?
Ouais, il y a plusieurs aspects sur l'aspect diffusion, sur la question de la diffusion. Il y a une première difficulté, c'est qui nous apparaît en pleine face là. Quand je vais vous contextualiser la chose, c'est que je travaille avec l'équipe des REN du pôle, et puis on a fait une des premières tâches qu'on a fait il y a 3 ans, c'est faire l'inventaire de ce qui existait. Et il y en existe énormément qui sont tout partout. Et puis, il n'y a pas vraiment de moteur de type, je vais parler de Google, là, parce que tout le monde le connaît. Google REN, ça n'existe pas. Bon, alors, ça serait dans le fun, mais ça n'existe pas. Donc, il faut aller partout pour les trouver. Alors ça, c'est une première difficulté. Là. Puis bon, au Québec, on sait, il y a une réflexion, éventuellement Pavillon REN, le projet Pavillon REN, qui est actuellement répertoire, qui va éventuellement devenir peut-être une possibilité de dépôt. Mais ça va peut-être simplifier, en tout cas au Québec, le repérage de ces ressources-là. Alors ça, c'est une première chose. Donc, où aller placer notre ressource? À ce sujet-là, il faut distinguer Vous savez, quand on développe une ressource éducative numérique qu'on veut partager, on veut choisir la plateforme la plus pérenne possible dans le temps. On veut pas que dans 3 ans, elle disparaisse. Et le problème, quand on dépose nos ressources sur nos sites web institutionnels, ben, c'est qu'après 2, 3, 4, 5 ans, oups! Ça change, la structure change. Alors, s'il a été référé ailleurs, on les trouve plus. Alors, ça, c'est vraiment le problème. Donc, il faut trouver une plateforme qui soit pérenne. Et à ça, même si on trouve une plateforme pérenne, il y a le choix éventuellement de plateformes qui soient vivantes ou pas. Quand je parle de plateforme vivante, là, on parle de ressources vivantes aussi, c'est la possibilité, même si on l'a déposé dans une structure permanente, de la mettre à jour, de continuer de la mettre à jour. Par exemple, un site web, c'est sûr, institutionnel, ça continue d'être mis à jour. Si on fait une ressource sur Geniali, Canva, ben c'est des applications web, donc on peut continuellement mettre à jour ces ressources-là. Évidemment, il faut mettre à jour aussi les sources, parce que si la licence est libre, il faut s'assurer de livrer les sources aussi. Donc, il faut se préoccuper aussi de mettre à jour les ressources. Donc, c'est quand même un défi, ça, où aller partager, là. Donc, cette question-là est vraiment quand même fondamentale, parce qu'on veut un produit pour le futur. Donc, le choix de plateforme dans ce contexte-là est quand même important aussi, parce que si on s'en va vers des plateformes qui sont, évidemment, on cherche, surtout si on a une licence libre, on cherche des plateformes qui sont très, très populaires, hein, où il n'y a pas de barrière. Si on prend un outil qui n'est pas connu, évidemment, il y a des gros risques, ça tombe à l'eau dans 2-3 ans. Même des plateformes comme Geniali ou Canva, on est dépendant des licences souvent, hein. On va utiliser souvent la licence, c'est des licences semi-payantes là sur ces outils-là. Alors si on produit une ressource avec une licence payante, ben là ça veut dire qu'il y a un petit peu moins de public cible qui va pouvoir la modifier éventuellement. Hein, peut-être qu'ils vont pouvoir l'utiliser, mais pas la modifier. Alors, des questions quand même importantes. Puis, je dirais qu'il n'y a pas de réponse absolue dans ce domaine-là. Là, il y a toujours du noir et du blanc, du gris. Et il y a des gens d'ailleurs dans l'univers des ressources numériques. Surtout du côté du libre, qui sont un petit peu extrémistes là-dessus. Il y a des gens qui disent non, faut utiliser que du libre. On n'a pas question d'utiliser même les suites Microsoft qui sont évidemment partout ces temps-ci, mais qui ne seront peut-être pas dans 10 ans, on ne sait pas. Et puis il y a des gens qui disent non, c'est pas grave, là, moi je développe sur n'importe quelle plateforme. Je la partage, puis c'est ça qui est bon. Alors, on nage entre ces deux positions-là, mais l'idée là-dedans, c'est qu'on vise toujours le maximum de gens quand on choisit notre plateforme. Donc, pour la diffusion, c'est quand même une question qui est très importante, le choix de l'outil.
Oui, c'est complexe, puis c'est beaucoup de travail, en tout cas, à l'entendre comme ça. Donc, ben là-dessus, est-ce que vous réfléchissez à comment votre reine va vivre par elle-même une fois qu'elle est diffusée? Donc, qu'est-ce que vous prenez en considération, puis comment ça peut affecter votre choix de licence? Je sais, Annick, que vous aviez discuté de ça récemment, en fait. Là.
C'est certain que... Tu veux jouer puis trouver l'équilibre, tu sais, entre dire OK, ben nous on veut la développer, admettons, avec un outil, ça c'est la meilleure façon de le rendre, mais comme Claude le mentionnait, tu dis comment cet outil là cette licence là donc peut évoluer dans le temps, est-ce que les gens vont avoir à l'acheter, est-ce qu'ils l'ont déjà ou pas, puis là de faire des choix sur dire bon, OK, on veut faciliter l'adoption de cette reine-là, de l'implémentation pour les gens, puis l'adaptation, tu sais, comme nous on disait, ben tu sais, on veut leur donner la formule, comment le faire, tu sais, alors on va avoir un petit guide qui va expliquer tout ça. Ça a beaucoup quand même joué, tu sais, dans le choix, tu sais, de dire ok, bon, quelque chose de qui est facile à faire, donc pour la capsule sur le bien-être numérique, là, pour être plus concrète, là, on s'est dit ben on va faire un enregistrement comme on est en train de le faire là, tu sais, donc en utilisant Teams ou Zoom, puis que les gens ensuite pourront faire du montage. L'idée, c'est que les gens, les participants, partagent un peu leur expérience sur le bien-être numérique avec les thématiques, puis on va leur donner donc des templates, des gabarits là à utiliser là pour le montage, les visuels et tout ça. Donc c'est vrai que ça à partir du moment où tu dis je veux que ça puisse être déployé plus largement, ça va impacter des choix. Puis dans le cas de notre formation sur les modules sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le développement des formations en ligne, nous, on l'a créé sur Moodle. T'sais, donc, en disant, ben c'est sur Moodle, les gens vont pouvoir voir et on pourra extraire les contenus, mais on a fait des choix à un moment donné en disant, ben nous, pour nos besoins, puis les principaux partenaires avec qui on va le déployer, ben ça sera monté sur Moodle. Donc, c'est ça. C'est des décisions à prendre qui sont des fois un petit peu crève-cœur, là. Puis soit tu dis, ben regarde, ça va aller dans ces directions-là, ou tu dis, non, on veut le faire le plus simple possible, puis celle-ci, elle sera faite de façon à être plus conviviale puis flexible pour les gens.
Paulo, est-ce que pour vous, est-ce que vous avez réfléchi à la question de la licence, par exemple, l'attribution d'une licence sur la reine que vous venez de déposer?
Oui, en fait, dès le début, on souhaitait créer une ressource accessible et 100% modifiable. Voilà, c'était notre souhait dès le début du projet. Et puis, c'est ça qu'on a fait. Bientôt, la ressource sera diffusée dans le réseau et nos collègues pourront la modifier comme ils veulent. Mais par rapport à ce qu'il disait Claude tout à l'heure, le choix de plateforme, donc nous, on a choisi Genially justement parce que la plateforme est vivante, donc elle évolue et peut-être que dans 6 mois, dans quelques mois, on aura des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles présentement et on pourra peut-être améliorer la ressource. En fait, c'est un cas concret. Je pourrais citer un exemple ici quand on a commencé ce projet. On se demandait si dans Genially on pouvait ajouter une barre de progression pour un guide. C'est une fonctionnalité très simple, mais ça n'existait pas. Et maintenant, ça existe. Ça fait 2 mois à peu près que cette fonctionnalité est rendue disponible dans Genially. Donc voilà un exemple concret d'une plateforme. Ben je fais pas la promotion de Genially, je suis pas payé pour, mais effectivement, c'est très important de choisir. De choisir une plateforme, d'après moi, qui soit vivante, qui évolue. On sait très bien que les ressources numériques évoluent constamment, rapidement. Mmh. Et puis, pour la mise à jour de la ressource, de la reine, il faut que la plateforme soit vivante parce que sinon, c'est difficile de mettre à jour la ressource. Donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi Genially, même s'il y a, oui, des limitations, mais ça, c'est vraiment un problème, un défi auquel mes collègues ont fait face, je suis sûr, je suis certain, parce que n'importe quelle plateforme a ses limites, donc il faut en être conscient lorsqu'on développe une reine. Mais il faut vivre avec et s'adapter. Donc, c'est aussi une opportunité. Ça nous permet aussi de trouver des solutions, d'être créatif pour trouver des solutions pour contourner les limitations.
Ouais. Ouais, fait qu'on constate que le développement de REN, en fait, ça demande de prendre une posture qui est beaucoup axée sur le partage, sur la mutualisation des ressources, sur la collaboration.
Ça revient à ce que Claude disait, quand tu développes une reine, évidemment, la première chose, c'est d'essayer d'aller voir ce qui s'est fait, qu'est-ce qu'il y a présentement, là, tu sais, pour essayer d'éviter de démultiplier les mêmes les mêmes initiatives, tu sais, de création de ressources, tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé quand ça a commencé à être partagé. Puis, tu sais, donc, on avait participé aussi à l'identification au tout début, là, puis dire, OK, sur telle chose, eh, mon Dieu, oui, on est plusieurs à avoir essayé de développer du matériel, tu sais, de support, puis dire, OK, puis là, de voir les types, puis qu'est-ce qu'on a, le besoin finalement complémentaire ou qu'est-ce qui manquait. Alors ça, c'est important, puis j'aime beaucoup l'idée de pouvoir avoir cette cartographie ou une façon de pouvoir classer pour qu'on puisse vraiment aller chercher, puiser. Dès que tu as un besoin, ah, je me demande ce que les autres ont. Y a-t-il quelqu'un qui a développé quelque chose sur l'accessibilité, tu sais, pour tel contexte, puis là, de le voir, ah, OK, ça. Puis, parce que c'est un peu l'idée là, qu'on partage. Alors, pour bien partager, il faut pouvoir bien voir qu'est-ce qu'il y a disponible.
Je serais curieuse, dites-moi si vous n'êtes pas à l'aise de répondre, mais vu qu'on est comme un panel interordre, puis peut-être que je me trompe, mais est-ce que c'est possible que cette culture-là de partage, de collaboration, elle soit un peu plus présente dans les cégeps que dans les universités?
Après l'exercice d'évaluation de 1500 rennes qu'on a fait au pôle, on a constaté que, oui, c'est peut-être vrai, il y a plus de cégeps. Hein. Il y a 50 cégeps, il y a 20 universités au Québec. Éventuellement, il y a peut-être plus de partage du côté des collèges. Par contre, les licences qu'on y retrouve, on constate que, en tout cas, les gens n'étaient pas initiés, en tout cas, je prends comme référence la pandémie, à la notion de licence libre. Les licences étaient, je vais dire ça comme ça, là, pour qu'on comprenne bien, plaquées sur le site web, mais on dit, voilà, on l'a partagé, mais sans se soucier du fait que, évidemment, quand il n'y a pas de licence, c'est protégé, hein? On peut pas modifier, on peut pas récupérer, on peut même pas distribuer une licence qui est sur un site. Donc, il y a quand même une culture à développer, du partage à développer au Québec. Puis, je dirais que les universités sont un peu plus avancées de ce côté-là, en tout cas dans l'appropriation, parce qu'il y avait plus de licences qui, du côté universitaire, avec une étiquette libre. Donc, oui, c'est pas... mais par contre, c'est vrai, je pense, qu'en termes de... C'est un pléonasme, collégialité, les cégeps, les collèges sont un petit peu plus familiers avec cette notion-là. Puis c'est vrai que l'idée de tour d'ivoire, là, du prof qui développe dans son petit coin, existe encore à l'université, même si ça tend quand même à se disparaître un petit peu. Ben, peut-être pas disparaître, mais s'atténuer, disons. Là, les gens travaillent un petit peu plus dans l'ouverture maintenant, même avec Internet, avec les communautés, etc. Donc, c'est une question qui doit être nuancée. La réponse est nuancée.
Oui, c'est intéressant. Pour finir, j'aimerais ça vous amener vers des recommandations, peut-être. Annick, si tu avais à faire quelques recommandations là, à une équipe qui voudrait se lancer dans le développement d'une REN en formation à distance, qu'est-ce que tu pourrais recommander?
Bien, je les encourage parce que donc je trouve que c'est c'est un beau projet de s'embarquer donc dans le développement d'une REN. Ce qui est important de faire au départ, c'est de prendre ça vraiment comme un projet où on va définir quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on finit, des étapes avec des milestones, aussi de se constituer une équipe avec des rôles et responsabilités quand même bien définis, tu sais, pour être sûr que tu sais qu'il n'y a pas de mais tu sais, c'est lui qui est supposé de faire ça ou elle et tout ça, surtout quand tu travailles avec en partenariat avec d'autres établissements. Là, t'sais, donc, alors, t'sais, de le prendre comme un projet où tu te donnes donc différentes étapes à suivre puis à accomplir dans le temps pour y arriver, parce que ça peut facilement juste, tu sais, tout le monde a des bien occupés, alors ça peut glisser, là, puis là, donc, tu termines pas. Il faut un chef d'orchestre, là, tu sais, pour pouvoir, puis qui fait quoi, là, tu sais, donc, Puis ensuite, d'être réaliste dans ce qu'on va développer, l'ambition, le goût d'ajouter, de tout ça, puis à un moment donné, se dire, OK, on va se faire un plan, puis réaliste de ce qu'on est capable de livrer, tout ça. Puis ça sera peut-être une première étape, il y aura peut-être des étapes, mais quand on essaie de faire... c'est trop gros des fois, mais c'est là que des choses par moment ne peuvent ne pas aboutir. Puis c'est ça, il n'y a pas de recette, absolument. Lancez-vous, on le disait, ça peut être l'approche à dire, un petit peu plus spontané. Il y a des façons de faire. Tout ça, quand tu as une belle entente entre des. Dans l'équipe, je pense que ça peut tellement être une belle expérience de développement.
J'ajouterais plutôt l'organisation. Je trouve que l'organisation, dès le début, est super importante. Savoir qui fait quoi, comme disait Annick, est fondamental, en fait. Être réaliste, en fait, je dirais la même chose, en fait. C'est très bien résumé par Annick. Et aussi être conscient que, comme disait aussi Marie, il faut se donner un peu de liberté, savoir que les plans peuvent en fait changer en cours de route. Ça, c'est important, même si on organise, on planifie dès le début, mais les choses peuvent changer un peu comme la vie, en fait. Concevoir une reine est un peu comme vivre. On a des plans, des projets, mais on ne sait jamais. C'est pas qu'on sait jamais, mais on imagine un résultat, mais le résultat, il peut être différent de celui qu'on avait imaginé au début. Donc, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit lorsqu'on conçoit une ressource éducative numérique. Et puis, mais si on est organisé, si on est bien encadré, donc on a plus de chances d'avoir un résultat de qualité à la fin du projet.
Donc, la flexibilité dans un cadre.
Oui, c'est ça.
Oui. Oui, Marie?
Ben, peut-être juste pour ajouter, mais tout a déjà été dit, mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Paolo et Annick aussi, moi, je dis souvent qu'en conception pédagogique, on a une boussole, puis notre boussole, il y a comme deux choses, il y a comme notre analyse de besoin, tu sais, quand on reçoit beaucoup de suggestions d'amélioration pour essayer de voir est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Puis il y a aussi notre intuition, notre petite voix. Fait que voilà.
Parfait. Est-ce que vous avez des ressources concrètes, des outils ou des outils qui pourraient soutenir le développement de Rennes en tête ou que vous avez utilisé vous-même?
En fait, comme je le mentionnais un peu plus tôt, nous, on utilise le modèle SAM beaucoup. Il y a le site Internet du père du modèle, là, si je peux dire ainsi, qui est un site où on retrouve des explications simples. Toutefois, c'est en anglais. Je ne sais pas si on pourra le mettre en ligne sur le site du pôle. Puis moi, j'aime bien le schéma du pôle numérique, là, celui où on voit les tours de roue. Mm-hmm. Je trouve que ça montre vraiment bien la structure et l'espèce de flexibilité qu'il faut avoir quand on fait de la conception pédagogique, quand on conçoit une reine particulièrement.
Oui, moi, on pourra l'ajouter en lien.
Oui, tout à fait. Je recommanderais aussi à nos auditeurs, auditrices, consulter le document nommé par Marie, mentionné par Marie. Je peux le nommer parce que j'avais l'intention de les citer effectivement. Donc, ça s'appelle « Processus des créations et d'adaptation de ressources éducatives numériques en formation à distance ». C'est long, mais c'est un document fondamental pour nous. On a beaucoup... consulter ce document, c'est une reine, en fait. C'est un document super important pour la conception, surtout pour ceux et celles qui vont se baser sur le modèle ADZI, parce que c'est un peu, si j'ai bien compris, la base de ce document.
C'est comme une méta-reine, une reine pour une reine. Oui. Super, merci.
J'aurais peut-être une dernière ressource à partager. C'est en fait, c'est tout bientôt, d'ici une semaine ou deux, c'est un peu de l'autopromotion aussi. C'est la revue Médiation et médiatisation qui sort un numéro thématique sur les ressources éducatives numériques, l'éducation ouverte, et dans lequel, justement, mes collègues et moi de l'équipe du Pôle, on a un article justement sur l'expérience d'analyse des 1500 RENS, et dans lequel aussi on partage un outil d'auto-analyse de ces RENS. Alors, ça aussi, c'est un outil intéressant avec des critères de qualité. Ce qui n'existait pas, véritablement difficile à trouver. Donc, c'est intéressant, ça, pour les gens qui développent en amorce ou même en amont du processus. Et puis, le numéro thématique est fantastique aussi, là. Parce que c'est justement, il y a des expériences de créateurs et créatrices de ressources à l'intérieur de ce numéro-là. Je mentionne parce que c'est la première revue qui fait un numéro thématique sur la question en français essentiellement. Donc, c'est quand même en émergence.
Bien, parfait. Merci. Merci tout le monde. Marie, Annick, Paolo, Claude, merci d'avoir partagé tout ça avec nous, vos connaissances, vos expériences. Je vous dis à la prochaine.
Merci.
À la prochaine.
Merci, à la prochaine.
Au revoir, c'était un plaisir de partager donc avec vous.
Cher auditoire, nous espérons que notre discussion d'aujourd'hui vous aura apporté un nouvel éclairage sur la conception et le développement de ressources éducatives numériques pour la formation à distance. Nous vous invitons à tirer profit de la panoplie de ressources mises à votre disposition sur le site web du Pôle d'expertise et à vous laisser inspirer pour créer votre propre RENS. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous continuerons de discuter des facettes du monde de la formation à distance en enseignement supérieur. À bientôt!